pour Vincent Aboubakar.
Bien joué.
Derrière. La reprise. Le but de Vincent Aboubakar. À 3 minutes de la fin. Le Cameroun qui passe devant. Oh, le joli geste tactique. L'aile de pigeon, ça passe par-dessus. La reprise à la Dari. Mystifié, son ballon qui vient à terre prendre le petit filet. Et le Cameroun qui passe devant. 2-1. À 2 minutes de la fin. Madame, messieurs.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Des Lions champions d'Afrique, le Cameroun a donc remporté la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe qui n'était pas partie favorite dans cette compétition, mais qui rentre à la maison le trophée en main à Yaoundé. La fête les attend, ces champions, la foule de leurs supporters et admirateurs aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International, dans une édition évidemment consacrée à la fin de cette CAN 2017, où nous parlerons aussi des pharaons, des finalistes dignes, selon le président Sissi qui les a reçus au Caire tout à l'heure, des Égyptiens déçus mais qui frappent un grand coup pour leur retour dans cette compétition dont ils détiennent toujours le record de titres. Et quant aux étalons, ils ont été accueillis comme des champions et aussi par des milliers de Burkinabés satisfaits d'une troisième place et surtout d'une ultime victoire dans cette CAN où ils n'auront jamais perdu un match. Pour évoquer tout cela, nous avons un champion d'Afrique dans ce studio. Bonjour Rémi.
Bonjour. Comment... au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Valourou est jaloux de ta liberté. Vive les Lions.
Habib,
bonjour Annie, bonjour à tous. J'aimerais quand même rendre hommage à mon ami Rémi Ngono et dire que je suis un peu tous les commentaires sur la page Facebook de RFI et certaines personnes nous opposent. Il faut savoir qu'on s'aime beaucoup. C'est un jeu qui s'est installé entre Rémi et moi. On a des visions différentes du football, mais que les gens sachent que même s'ils nous ont éliminés, j'aime beaucoup Rémi et je suis très content pour lui et son pays.
Merci beaucoup, je suis sensible et bien évidemment aussi je tiens à féliciter Habib Bey parce que il faut quand même se dire que le Sénégal est particulièrement un pays où je suis beaucoup aimé et j'aurais souhaité que les Lions Indomptables viennent à rencontrer les Lions du Sénégal qui, faut-il le dire, pour moi avaient la meilleure formation et
ils
surtout
avaient le profil de favori,
et ils avaient le profil de favori et surtout ils n'ont pas déçu sur le terrain.
Ceux qui avaient un profil de favori qui sont sortis encore plus tôt, c'est les Fennec algériens. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous félicitez tout le monde, vous, là, non ?
Ça me fait mal, mais non, je plaisante, mais je suis content pour le Cameroun. C'est une belle victoire. Victoire d'un collectif, une victoire de la solidarité. Je trouve que ça redore aussi le blason du football africain, cette victoire camerounaise, où finalement ce sont des joueurs, pas forcément des stars, qui ont remporté cette compétition et bravo Rémi, ça me fait mal mais bravo.
On va y revenir dans cette émission et on ira aussi du côté de Libreville où nous attend Christophe Jousset et Radio Foot. C'est parti.
La frappe. Vincent Aboubakar. On n'a pas vu ce but venir, Fonny Tchékié. Amorti de la poitrine. Frappe de l'extérieur du droit.
La Guinée est dans la sauce. La Guinée est dans la sauce. Dans la sauce. Le Guinée 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 dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Dans la sauce. Les jaloux. Dans la sauce. Les jaloux. Dans la sauce.
Dans la sauce camerounaise.
C'est bon, ça.
Le refrain du moment, hein, en ce moment, du côté du Cameroun, Rémi.
Oui, tout à fait. C'est un titre qui est sorti depuis. C'est-à-dire, ça n'avait aucun rapport avec les Lions Indomptables, mais sauf
mais l'ont
que,
accommodé.
Par la suite, ça a été accommodé et finalement, c'est devenu un refrain patriotique. Tout le monde dans la sauce, à peu près comme les Congolais aussi. Ils ont leur fimbou. Donc finalement, les Camerounais, ils ont adopté dans la sauce, tout le monde dans la sauce,
moins,
et curieusement tout le monde vraiment est passé dans la sauce, dans la ratatouille.
Et bien dans la sauce en tout cas, c'était une sauce de fête hier soir à Yaoundé, toute la nuit, hein, des chants, des klaxons, des supporters aussi, heureux de la victoire des Lions Indomptables, heureux de ce troisième trophée remporté et bien au terme d'une finale très disputée, hein, un score final 2-1 face
cinquième
à l'Égypte.
Cinquième trophée, oh là là.
Ils sont passés devant le Ghana en fait. Cinquième, ouais.
Cinquième. Bah oui. Ben oui, 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 ils sont deuxièmes maintenant sur le plan africain. En tout cas, l'équipe du Cameroun est attendue de pied ferme par une grande foule qui a pris depuis ce matin d'assaut l'aéroport de Yaoundé. on annonçait les Lions à 11h du matin. Finalement, ils viennent seulement de se poser. Et Jean-Bruno Tagne est parmi les supporters là-bas du côté de Yaoundé. Bonjour Jean-Bruno, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien, Annie. Effectivement, les Lions Ananda viennent juste d'atterrir ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Leur avion, un avion de la compagnie nationale camerounaise, Cameco, vient de se poser. Les Lions sont encore à l'intérieur. Les dispositions sont en train d'être prises pour que les champions d'Afrique sortent de cet avion. Et la foule est impressionnante à l'aéroport de Simalène. Et vous l'avez dit, les gens attendent Dieu plus ce matin parce qu'il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. On les attendait à 7h30. Après, c'était 11h. Et enfin, c'est simplement aux environs de 16h que l'avion a finalement atterri à l'aéroport de Simalène.
En fait, ils attendaient le début de Radio Foot, Jean-Bruno. Je pense que c'est ça.
C'est pour, certainement cela.
Pour rentrer en direct pendant l'émission. Et Jean-Bruno, quel est le parcours prévu ? J'imagine qu'ils vont quand même se promener un peu dans la ville et atterriront sans doute au palais présidentiel, c'est ça ?
Alors, effectivement, alors à l'instant, Benjamin Moukandjo vient juste de sortir de l'avion précédé par le ministre des Sports avec le beau trophée qu'il vient de remporter. Alors, il est prévu que les Lions partent de l'aéroport de Yaoundé-Simalène jusqu'à leur hôtel où ils sont généralement basés, à l'hôtel Montfédé. Et le parcours va être très, très difficile parce que les foules sont massées un peu partout sur les grands carrefours pour attendre passer ces Lions Ananda. Donc, normalement, pour partir de Yaoundé-Simalène jusqu'au centre-ville, jusqu'à leur hôtel, c'est maximum 45 minutes, mais je crains qu'il fasse au moins 2 heures parce qu'il y a une foule impressionnante le long des rues pour attendre de voir ces champions du monde. Alors, est-ce qu'ils vont être reçus par le président de la République ? Certainement, parce que c'est une tradition d'être reçu par le chef de l'État. On attendait un férié aujourd'hui, mais bon, il n'est pas tombé, c'est pas grave. Et donc, la réception par le président de la République, on n'a pas encore le jour, ce sera probablement demain. Mais pas ce soir, Annie.
Merci beaucoup Jean-Bruno. On se souvient du retour des éléphants quand ils étaient rentrés à Abidjan avec leur trophée. Donc, eh bien, c'est la fête du côté de Yaoundé, car les héros, eh bien, d'un soir aussi sont dans le groupe. Les buteurs Nicolas Nkoulou, qui était entré dans la première mi-temps, et puis Vincent Aboubakar, lui le remplaçant, qui est entré au moment de la deuxième mi-temps pour inscrire ce but spectaculaire de la victoire. Christophe Zousset, vous êtes en direct avec nous de Libreville, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors, je viens d'entendre que le Cameroun était champion du monde, ça doit être une
petite
lapsus.
Oh là là,
bah oui.
Champion d'Afrique, alors évidemment.
En attendant mieux.
Oui, peut-être, qui sait, hein, s'il participe à la prochaine Coupe du Monde. Christophe, cette finale, elle a été épique quand même, parce que le début du match, c'était pas gagné pour ces Camerounais qui, certes, n'étaient pas favoris au départ de la compétition, mais qui, après, pour la finale, eh bien, étaient autant prétendants au titre que les Égyptiens.
Ouais, c'est un peu le mot d'ordre de l'ensemble du parcours du Cameroun dans cette compétition. C'était pas gagné. Ils étaient venus pour passer le premier tour parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire lors de la CAN précédente, ni même lors des CAN précédentes. Ça faisait quand même un moment que les Lions cherchaient un beau parcours en Coupe d'Afrique des Nations. Ils l'ont fait. Et effectivement, au vu de cette première période, je me demande bien qui pouvait prévoir la suite, parce que la première période a été entièrement en faveur de cette équipe d'Égypte qui était bien supérieure à la fois techniquement et tactiquement. On ne voyait pas à ce moment-là du match comment le Cameroun pouvait s'en sortir. Il n'y avait qu'un 0 à la mi-temps, puisque il n'y avait que le but finalement d'El Neni à la 22e. Et bah, voyez comme le football est fait, hein, le match a totalement été transfiguré, totalement changé de physionomie en deuxième période. Et comme vous l'avez dit, Annie, ce sont les remplaçants et c'est tout un symbole qui ont fait la différence. Des cadres que Hugo Broos avait osé mettre sur le banc, bousculant un petit peu la manière de penser au Cameroun. Il nous a expliqué, le sélectionneur belge, qu'il n'était pas compris dans sa méthode de travail au début. Et bien, à la fin, sa méthode a gagné.
Rémi, à la fin de la première mi-temps, vous vous êtes bien demandé si vous alliez le ramener au pays, ce trophée ?
J'étais totalement inquiet dans la mesure où les Lions ne parvenaient pas à faire le pressing ni à se faire de la place au milieu de terrain. Mais par la suite, je me suis quand même dit, si Hugo Broos refait les remaniements tactiques comme il avait fait lors des derniers matchs, par exemple, lorsqu'il voit que ça ne fonctionnait pas, il avait déjà fait que, eh bien, net à la sortie, à l'entrée de la deuxième mi-temps, qu'on puisse avoir Aboubakar Vincent. Et Aboubakar Vincent, quand il est entré, ça fait que Ndiambé, qui pratiquement faisait jouer le Cameroun en infériorité numérique, parce qu'il ne parvenait ni à faire un amorti, et même physiquement, il n'était plus au point, et techniquement, il était en dessous de zéro, donc pratiquement...
Vous êtes dur avec lui, Rémi, parce que Ndiambé, son rôle, toute proportion gardée, c'était un peu le Guy Varch de l'équipe de France 98, il a passé sa Coupe d'Afrique des Nations à jouer pour les autres.
Ah oui, mais, dans ce match-là, il a été physiquement absent, parce que le but d'Ndiambé, c'est quelqu'un qui allait au harcèlement. Or, contre les défenseurs égyptiens, il n'a même pas touché à la balle, et les simples balles qu'il avait, il ne jouait ni en déviation, et ne pouvait non plus balayer tout le front de l'attaque. Et du coup, le Cameroun, qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait tenir la balle, or lui ne sait pas tenir la balle, le Cameroun a souffert parce qu'il n'y avait pas de pivot. Donc, maintenant, on revient à la deuxième mi-temps, qu'est-ce que Hugo Broos fait en faisant entrer Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent va aller vers les 1 contre 1. Et ça, les joueurs, les défenseurs égyptiens n'aiment pas ça. Parce qu'en même temps, ils mobilisaient la charnière centrale, ça permettait également aux latéraux de monter, et bien évidemment aussi aux gens qui étaient à l'avant-poste, donc Bassagok et Moukandjo, de bien s'exprimer. Donc c'est Aboubakar Vincent qui a été la clé du match.
Moi, je trouve que les gens étaient un petit peu durs avec la première mi-temps du Cameroun. J'ai pas trouvé un Cameroun en immense difficulté. Il y a cette première minute où il y a Ondoa qui sort une frappe justement de l'Égyptien, et ensuite ce but d'Elneny. Mais je trouvais que les gens disaient que la première mi-temps du Cameroun était catastrophique. Non, elle n'est pas catastrophique. Elle a été un petit peu à l'image de ce Cameroun dans cette compétition. Ils ont voulu bien défendre, être dense défensivement. Après, l'Égypte a réussi à trouver cette faille avec Elneny et cette super passe de Mohamed Salah. Mais j'étais pas forcément inquiet après la première mi-temps du Cameroun. J'ai trouvé qu'ils étaient bien organisés. Ils ont eu un coup du sort parce qu'Nkoulou rentre quand même sur une blessure de Tekeu. Mm-hmm. Il n'était pas censé rentrer et c'est lui qui marque justement le but de l'égalisation. Donc il y avait de la réussite et il y a aussi du coaching, parce que c'est vrai qu'Aboubakar, lorsqu'on voit son talent et ce qu'il fait aussi du côté du
Beşiktaş,
pardon, ça prouve qu'il a de la qualité. Et c'est vrai qu'il a permis, je crois, d'avoir un point de fixation beaucoup plus important pour les Camerounais. J'ai aimé aussi le match de Bassagog, même s'il y a eu beaucoup de déchets techniques dans ses frappes. Elles sont parties souvent très très loin du cadre. Mais c'est un joueur intéressant dans sa percussion. Et j'aimerais rendre hommage aussi à Moukandjo, parce qu'il faut savoir que prendre le brassard dans cette équipe du Cameroun, lorsque vous avez eu des capitaines emblématiques, je trouve qu'il a très très bien assumé la pression. C'est pas facile. Il a été aussi, lui, critiqué. Sur la première mi-temps, il est positionné complètement à gauche, alors qu'avant, il était en soutien de l'attaquant. Et je trouve que tout au long de cette CAN, c'est quelqu'un qui s'est mis vraiment au service du collectif. Et aujourd'hui, on l'a vu de par les images, de par ses pleurs, de par son émotion, qu'il a été investi d'une mission. Et mine de rien, sa mission, il l'a menée jusqu'au bout avec l'entraîneur Hugo Broos, qui a fait preuve d'un coaching parfait, puisqu'il faut parler de ce coaching, puisque c'est Aboubakar qui marque un but extraordinaire.
Mais c'est vrai qu'il y a un changement presque culturel pour cette équipe camerounaise. Il y a toujours eu des hommes providentiels, que ce soit Samuel Eto'o ou d'autres. Et c'est vrai que Moukandjo, c'est un peu le symbole de tout ça. C'est l'anti-star. Aujourd'hui, il joue pas au Milan AC, au Real, comme Eto'o a joué à l'époque au FC Barcelone. Il joue à Lorient. Alors, il mérite mieux. Il a 28 ans. C'est un garçon qui s'est sacrifié pour le collectif. Hein. C'est plutôt une pointe en règle générale. Lui préfère jouer en pointe. À son image, il a joué sur les côtés. Moi, je suis d'accord avec Habib aussi. La première mi-temps, quand tu regardes les stats, c'est le Cameroun qui a eu le plus le ballon. C'est le Cameroun qui a plus tenté. Et allez, une petite anecdote savoureuse sur le héros de la soirée, Aboubakar. C'est aussi une équipe de revanchards à l'image de Aboubakar. Aboubakar, quand il est à Valenciennes, et Eli Bob qui se renseigne pour le prendre à l'OM, Daniel Sanchez à l'époque, l'entraîneur de Valenciennes, lui a dit, le prends pas, il a les pieds carrés. Donc quand on voit son but hier, bon, on se dit que ça va pour un gars qui a les pieds carrés. Quand t'enchaînes un sombrero et tu la mets petit filet derrière, voilà.
Il n'avait pas encore marqué en compétition comme ça officielle, c'est-à-dire. D'ailleurs, il était surnommé au Cameroun AVC. Bon, sauf
ça
qu'aujourd'hui,
veut dire quoi, alors, AVC,
c'est-à-dire qu'il donnait l'AVC aux supporters camerounais parce que par ses multiples loupés. Aujourd'hui, ça AVC a été transformé, que c'est lui qui a donné l'AVC au pharaon puisque c'est lui le sauveur. Et également, pour revenir sur Moukandjo, c'est pour dire que la tâche de Moukandjo est facilitée par Hugo Broos, parce que Hugo Broos, quand il arrive, il enlève les grosses têtes. Il faut quand même se dire que c'est lui qui se débarrasse de quelques quelqu'un quand même bien, c'est lui qui se débarrasse quand même de ce qui était super costaud et tout, et il donne cette possibilité à Moukandjo qui se retrouve avec des jeunes comme lui, voilà.
Christophe, justement, vous qui les avez vus, parce que depuis le premier jour, ils ont joué à Libreville, ils étaient dans le groupe A. Ce collectif, enfin, on loue beaucoup le collectif, ce groupe qui s'est trouvé et que Hugo Gobrois a façonné durant la compétition. C'est ça aussi la victoire du groupe.
Ouais, c'est ça. Il y a en fait un peu deux grands principes qui étaient l'humilité et la solidarité. Et Hugo Bros n'a pas voulu sortir de là. Il n'y avait pas de CV, pas de passe droit. Même quelqu'un comme Nicolas Nkoulou, qui a le passé qu'il a avec les Lions Indomptables, qui est probablement le plus expérimenté de ce groupe de 23, Nicolas Nkoulou, eh bien, il a été obligé de prendre place sur le banc des remplaçants. J'ai sous les yeux mes notes du Cameroun-Burkina Faso, donc le premier match, le 14 janvier, eh bien Nicolas Nkoulou, il était sur le banc des remplaçants, ça commençait comme ça pour lui, et Aboubakar également, et d'autres ont eu leur chance dans cette Coupe d'Afrique des Nations. En fil de parcours, on a perdu par exemple Mabouka, le latéral droit, qu'on n'a pas revu, on a perdu Toko Ekambi, qui n'a refait que quelques apparitions, Clinton Gier aussi, qui était titulaire pour le premier match, eh bien ça n'a pas duré longtemps, sa carrière dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez que il y a eu vraiment tout un groupe concerné et de vraies règles de concurrence appliquées, ce qui fait que Hugo Bros a réussi, ce qui n'est jamais facile, à concerner l'intégralité du groupe sans en perdre, en fait, de telle sorte que Aboubakar et Nkoulou, quand il vient planter sa tête à la 59e minute de jeu, passé au-dessus des Gazi, le défenseur central des Pharaons, dans la rage qu'il met dans cette tête, il y a sans doute pas mal de ce qu'il a encaissé depuis le début du tournoi, avec beaucoup de bon esprit, disons.
Il y a une force chez Hugo Bros, c'est qu'il a développé ce qui se développe énormément dans le football moderne aujourd'hui. On développe des complémentarités et des binômes. Et je trouve que ça a très bien fonctionné pour le Cameroun. Lorsqu'on regarde intrinsèquement chaque joueur, c'est pas forcément les meilleurs. Mais Teke Ngade, grosse complémentarité, même type de volume de jeu, et ces deux joueurs-là ont été très très forts ensemble. Lorsqu'on regarde les deux milieux de terrain, même si ça a changé puisqu'il y a eu Siani et Mandjek, mais il y a eu Djoum aussi, ça fonctionnait très très bien. Donc on sait que dans l'axe, c'est quand même là l'épine dorsale de l'équipe. On a eu aussi le gardien qui a été très très bon, Doha, même si sur le but hier, on peut lui reprocher, mais il faut se rendre compte à quel point ça va vite et c'est frappé fort par El Neni. Difficile pour lui peut-être de fermer son ongle, mais on pourra toujours discuter sur ça. Je trouve que c'est important aujourd'hui de développer des binômes, c'est-à-dire des paires qui sont capables justement de faire d'une équipe qu'elle soit solide. Et vous regardez l'année dernière à Leicester, par exemple, dans les championnats, on avait N'Golo Kanté et Drinkwater qui étaient des binômes exceptionnels. Et on l'a là dans beaucoup d'équipes. On parle de Chelsea aujourd'hui, N'Golo Kanté, Matic, derrière, il y a les trois qui... Et c'est dans toutes les équipes qu'on retrouve ça. Et je trouve qu'Hugo Bros a vraiment axé là-dessus. Au-delà des performances intrinsèques de chaque joueur, Nkoulou est sûrement meilleur que Nga 2, était que individuellement. Mais par contre, lorsqu'on parle collectivement, c'est plus la même histoire. Et ces deux-là ont été très très forts hier, même si Teke est sorti sans blessure.
Collectivement, mais on se souvient que peut-être que le match, entre guillemets, fondateur pour ce groupe qui leur donne l'impulsion d'aller plus loin, c'est contre le Gabon. On se souvient, ils passent très difficilement le tour suivant, parce que un poteau rentrant et c'était le Gabon qui passait à leur place. Ça a peut-être aussi aidé à forger le groupe.
Mais ils sont tombés dans une poule qui était globalement homogène. C'est à l'image de cette CAN, hein, franchement. Le Cameroun c'est au finish, mais il y a pas d'équipe qui a survolé d'un point de vue du jeu.
Favoris qui étaient dans les groupes les plus durs finalement.
Oui, voilà, ce sont un peu entre eux mis le bouillon. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après c'est vrai que je pense que le tournant, après je pense que c'est le Sénégal. C'est la séance de
tir au but.
Ouais, c'est Mané face à Ando, parce que l'homme, on parle depuis tout à l'heure d'Aboubakar, d'Nkoulou, mais pour moi l'homme du Cameroun, c'est le gardien, c'est Ando.
Pour moi, le meilleur Fabrice Ondoa.
Totalement.
Ouais. On se retrouve dans la deuxième partie de Radio Foot International pour continuer à évoquer la CAN. Et on se retrouvera avec vous aussi, Christophe. À tout de suite.
Le Radio Foot International. Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International sur RFI au lendemain de cette victoire du Cameroun dans la CAN 2017. Nous sommes avec Rémi Ngono. Rémi Ngono, tout sourire hein, aujourd'hui, évidemment.
On espère que vous allez nous payer un coup, Rémi, quand même. C'est maintenant ou jamais. Hein.
Ne vous en faites pas, la CAN va donner 2 milliards 600 millions de francs CFA aux Lions indomptables, même comme on dit que les Lions n'auront que le tiers de cette somme-là.
Et bah, ils méritent leur prime, là, en cash, en dollars.
Alors, il y a Nabil Djellit, et puis il y a Habib Bey et Christophe Jousset, qui est à Libreville encore pour quelques heures. Christophe, un grand absent hier, était au-dessus, disons, plané au-dessus de cette fête, mais il était d'une certaine manière présent, c'est Marc-Vivien Fauhé, décédé en 2003, c'était lors d'un match de la Coupe des Confédérations, on s'en souvient, c'était en France, à Lyon, et le Grand Lyon, eh bien, qui avait goûté aux joies d'un sacre à la CAN en 2000 et en 2002, a été associé hier soir sous la forme eh bien, de ce numéro 17 qui était inscrit sur le maillot du Cameroun floqué du mot champion. Et Eric Mamrut, qui était aussi au stade, a interrogé Ambroise Oyongo sur cet hommage.
C'est normal, vous savez, Marco, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui a donné son cœur pour la nation. Il est mort avec les couleurs du pays, donc il faut respecter cela. On l'a gagné pour lui, mais pas seulement pour lui. On a des collègues qui sont tombés sur des terrains, notamment Patrice Séquin, qui a été avec nous en 2015 en Coupe d'Afrique et qui n'est plus aujourd'hui. Donc on pense à tous ces gens-là. Donc je pense que si leur mémoire peut reposer en paix, et ça nous fera vraiment plaisir.
Alors il y avait donc Marc-Vivien Fauhé présent d'une certaine façon, mais Christophe, autour de vous, il y en avait des anciens champions camerounais, parce que il y avait évidemment Joseph-Antoine Bell, le consultant d'RFI, mais Patrick Mboma n'était pas très loin, lui aussi consultant, Roger Mila, Samuel Eto'o en tribune d'honneur, ça fait du monde.
Oui, il y avait pas mal de titres de champion d'Afrique autour de nous, et encore plus à la fin du match. Et c'est vrai que cet hommage à Marc-Vivien Fauhé était particulièrement bienvenu. Et pendant qu'il parlait à nos auditeurs, Ambroise Oyongo, je regardais son âge, 25 ans aujourd'hui, le défenseur de l'Impact Montréal, ce qui fait que lorsque Marc-Vivien Fauhé a disparu, il n'avait que 11 ans. Donc le bel hommage qui a été rendu par les Lions hier, c'est un peu le signe de la permanence de cet esprit des Lions, de cet esprit de conquête que les Lions version 2017 ont voulu retrouver pour être dignes de leurs aînés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors peut-être pas avec les moyens qu'ont eu les générations précédentes, hein, parce que il n'y a pas, on l'a dit, dans cette génération-là, dans ces nouveaux champions d'Afrique, de stars à la mesure des précédentes. On pense à Mboma, on pense à Samuel Eto'o bien sûr, mais aussi Roger Mila, Joseph-Antoine Bell et les autres. Gobert Song, évidemment, qui a suivi tout ça à distance, mais la tradition est respectée, la lignée est respectée, l'esprit aussi, parce que quand on dit impossible n'est pas camerounais, quand on parle des ressources mentales, de la force mentale du footballeur camerounais, eh bien, sans tomber dans la caricature, on a bien vu ce que ça voulait dire hier.
Et justement, Rémi, ils sont dignes du passé de leurs aînés, sans toutefois avoir leur talent, ces vainqueurs de la CAN 2017, je crois que tout le monde en convient.
Ils peuvent ne pas avoir leur talent, mais on ne sait jamais ce que ça sera. Et d'ailleurs, que je crois que lorsqu'on essaie de regarder cette équipe de Lyon aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que la défense à cette époque-là, lorsque vous voyez, pourquoi est-ce qu'ils rendent hommage à Marc-Vivien Fauhé? Les Lions indomptables remportent la Coupe d'Afrique des Nations à l'époque de Marc-Vivien Fauhé grâce à une assise défensive, parce qu'ils arrivent en finale sans encaisser de but, et il gagne contre le Sénégal par 3 tirs à 2. C'est-à-dire que les Lions ont fait un parcours avec un axe défensif où Fauhé venait s'incorporer pratiquement dans la défense. Et c'est quelqu'un également, quand vous essayez de regarder aujourd'hui cette dynamique au niveau du milieu de terrain, tout de suite, avant qu'on ne reprenne la deuxième partie de Radio Foot, on en parlait tout de suite avec Habib Bey, à savoir que non seulement il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les binômes, mais surtout, vous avez le milieu du terrain où on parlait de Siani, qui aujourd'hui fait un travail de métronome, de robustesse avec des Djoum. Et même quand Magic vient, il vient cadenasser la défense. Ça, c'est l'esprit Lyon. Et au-delà de ça aussi, il y avait beaucoup de solidarité à l'époque de Marc-Vivien Fauhé. Si les Lions indomptables avaient gagné, c'est parce qu'il y avait la fraternité, l'amitié Or, après la mort de Marc-Vivien Fouet, l'équipe s'est disloquée et il y a eu du clanisme, il y a eu des rivalités, des forces centrifuges avec chacun dans son égoïsme et égocentrisme qui voulait montrer qu'il est la super méga star. C'est ça qui est éparpillé a fait que le Cameroun perdent définitivement. Donc c'est l'âme de Marc-Vivien Fouet qui est revenue et c'est cette âme-là qui a donné cette victoire-là. Parce que également, le football, c'est psychologique, c'est spirituel, avant d'être, bien évidemment, physique.
Habib.
Non mais c'était important, je pense, de rendre hommage à Marc-Vivien Fouet parce que ça a été un homme exceptionnel qui a, on l'a dit, qui est parti avec la tunique camerounaise et aujourd'hui, si ces joueurs arrivent à s'identifier à ce type de joueurs et à ce type de personnalité, c'est juste exceptionnel de voir ces jeunes joueurs en parler puisque comme on l'a dit et Christophe Jussé le disait, Oyongo n'avait que 11 ans à l'époque où Marc-Vivien Fouet est parti. Je crois que aujourd'hui, il était important pour le Cameroun, surtout au-delà du fait de penser aux anciens, de retrouver une forme de stabilité, une forme de sérénité, une forme de collectif,
de continuité aussi,
de continuité dans le travail. Hugo Broz, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, il faut aussi rendre hommage. C'est bien de voir tous ces anciens se mettre autour de cette sélection. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait en Hugo Broz. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait en cette équipe du Cameroun. Non, mais pas citer qui que ce soit. Mais
il y en a beaucoup qui font un honorable.
Je trouve que c'est très très bien l'hommage et surtout à des gens qui sont disparus. Mais pour ceux qui sont présents, il faut là, maintenant laisser cet instant-là aux joueurs, à tous ceux qui ont été capables d'amener ce trophée aux Camerounais. Et quoi qu'il arrive, tous ces joueurs-là ont été précurseurs dans le succès du Cameroun aujourd'hui. Mais comme l'a dit Rémi, se sont un petit peu liquéfiés au fil du temps parce qu'il n'y avait plus ce fil conducteur qui, je crois, est dans l'ADN du football camerounais et ce qui représente cette nation. C'est ce qu'on a vu pendant cette CAN.
Alors fort de les adversaires, ils l'ont donc emporté après un match donc difficile face au Pharaon. Christophe, c'est Pharaon, 7 titres de champion d'Afrique, finalement un parcours quand même exemplaire, même s'ils rentrent sans le trophée du côté du Caire où ils ont quand même été reçus hein, par le président de la République et où la capitale était un peu silencieuse là par rapport à Yaoundé, parce que devant les écrans hier, eh bien les gens ont déchanté. On parle quand même d'une performance digne du côté de l'Égypte, d'une défaite honorable, parce que cette équipe, elle revient après 7 ans d'absence.
Oui, c'est vrai que le parcours est réussi de toute évidence. De toute façon, quand on est en finale déjà, ils ont fait la démonstration, les Pharaons, que malgré cette longue absence, 7 ans, ce n'est pas rien. 3 CAN manquées, 3 absences en phase finale. Eh bien, ils ont tout de suite été pour leur retour au plus haut niveau. Ils ont eu les moyens d'atteindre cette finale. Alors, avec plus ou moins de bonheur, parce que c'est vrai que sur les deux dernier match, on a vu peut-être certaines limites. On peut en discuter peut-être physiquement. C'est vrai qu'au bout d'une heure, on voit contre le Burkina Faso que l'Égypte, plafonne, plafonne un peu, n'a plus vraiment les moyens de jouer. Attend en tout cas la séance de les prolongations, voire la séance de tir au but. Et hier, effectivement, au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure de jeu, pardon, après l'égalisation de Nkoulou, on sent qu'ils perdent pied et qu'en défense, la paire Egazi Al-Gaber se fait manger sur le but de la victoire par Abou Bakar. C'est peut-être physiquement aussi et peut-être dans un certain manque d'expérience malgré tout que ça s'est joué aussi, que ça a basculé cette finale.
Nabil. C'est quand même le retour de l'Égypte au premier plan avec plus ou moins les mêmes recettes, même s'il y a un peu moins de talent celle qui a emporté trois fois consécutivement la Coupe d'Afrique des Nations 2006, 2008, 2010. C'est sûr qu'il y a un guide qui s'appelle Mohamed Salah. C'est aussi toujours une équipe qui est constituée à plus de 50% de joueurs qui jouent dans le championnat d'Égypte. Il faut quand même le rappeler.
Un championnat qui est encore compliqué actuellement sur le plan de l'organisation. On en parle régulièrement.
Tout à fait.
Ici.
Elle compte aussi sur beaucoup plus d'expatriés que par le passé pour les raisons que vous venez d'énumérer. Mmh. On parle des Neni, Salah. Il y en a d'autres également qui jouent à l'étranger. Mais cette paire centrale, moi, elle m'a impressionné. Abi, peut-être vous aussi également. Même s'ils ont été un peu en difficulté hier, El Gaber et Gazi, c'est extrêmement costaud à tous les niveaux. Puis il y a le garçon à droite qui est très bon également, qui est pour moi quasiment le meilleur latéral de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Dirar le Marocain. C'est El Mohamadi qui est passé par l'Angleterre, qui a notamment joué à Hull City. Maintenant, l'Égypte va falloir, son grand défi finalement, plus que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est de savoir si elle va continuer sur cette lancée, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde où elle est en tête dans un groupe difficile. Ça fait 27 ans que l'Égypte, puisqu'on n'est pas encore en 2018, mais 27 ans que l'Égypte n'a pas joué une Coupe du Monde. Tout le monde dit toujours un peu la même chose sur l'Égyptien, on comprend pas, ils sont très bons en compétition continentale, mais dès qu'il faut aller en Coupe du Monde, il y a plus personne. C'est ça le grand objectif aujourd'hui de l'Égypte, c'est de jouer la Coupe du Monde en Russie, plus que cette Coupe d'Afrique des Nations. Quant au Cameroun, je vais suivre avec intérêt quand même leur parcours. Rappelons Annie qu'ils sont dans un groupe extrêmement compliqué pour les éliminatoires de la Coupe du Monde avec le Nigeria, l'Algérie et la Zambie. Est-ce que cette Coupe d'Afrique va les propulser pour passer devant le Nigeria? Qu'est-ce qui va se passer dans le groupe? Est-ce qu'on va faire revenir des joueurs? Il va falloir pas faire n'importe quoi.
Habib, sur l'Égypte, j'imagine que vous n'aimez pas le terme défaite honorable. Mais
Une honorable, oui, bien sûr qu'ils peuvent avoir un honneur de revenir au pays.
Ce que je
ne conçois pas, c'est la défaite encourageante. Encourager des gens à perdre, c'est pas dans l'ADN du football. Après, que ça soit un honneur pour eux de rentrer au pays en étant finaliste. Je l'ai été finaliste, j'ai été perdant, et bien sûr qu'on est rentré avec beaucoup d'honneur, mais on peut pas accepter une défaite. Et en plus, nous, c'était au pénalty. Là, pour le coup, les Égyptiens, ils peuvent être satisfaits de leur parcours au vu des exigences déjà de départ pour cette équipe. Moi, je trouve qu'il leur manque une chose à cette équipe, c'est un grand attaquant. C'est aussi simple que ça. Je trouve qu'ils ont un groupe qui est homogène, sans immense talent à part Mohamed Salah, mais il leur a manqué cet attaquant peut-être qui était capable de faire Zaki à l'époque avec les Égyptiens. Et c'est tout. Je ne crois pas qu'il y ait un gros manque dans cette équipe. Ils ont juste eu peut-être.
Mais ils l'ont normalement, mais il a pas été à la hauteur. C'est celui qu'on appelle Trezeguet.
Oui, non, moi je l'ai vu. Je suis pas fasciné par Trezeguet. Je suis pas fasciné par cet attaquant-là. Je trouve que Zaki, les Mido, c'était bien au-dessus de ça, et qu'il aura peut-être manqué ça. Mais sinon, collectivement, ça a été une équipe qui a été cohérente, qui a joué avec Hector Cooper un plan sur le plan tactique, quelque chose de très intéressant. Ils ont été rarement mis en difficulté. C'est vrai que cette charnière a été bonne tout au long du tournoi. Et le but d'Aboubakar, c'est juste au talent d'Aboubakar. On peut pas pointer une.
Mais dès celui d'Enkoulou quand même, on sent.
Parce qu'à un moment donné, le momentum a changé.
Ils sont passés ric-rac à chaque tour. Rappelons, face au Maroc, très sincèrement, ça joue à rien. Les Marocains, ils ont des opportunités incroyables avec Boussoufa qui tire sur la barre. Et Annie, rappelons quand même aussi ce match face au Burkina Faso, qui est moi mon coup de cœur de la compétition, je vous le dis, et notamment Bertrand Traoré, ça s'est pas non plus joué à grand chose.
Rémi, un mot sur ces pharaons que vous avez vaincus?
Moi, je ne voudrais pas que on dise que les pharaons sont faibles. La preuve, c'est que je devrais dire que si vous avez des inquiétudes par rapport à la Coupe du Monde, ils sont déjà premiers de leur poule. Et il faut quand même se rappeler que ils n'ont pas fait n'importe quoi, parce qu'ils ont même battu le Ghana par 2-0. Et ils ont encore battu le Ghana. Donc, à une certaine période, il faut quand même se dire que ce n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent là. Oui. Et il faut aussi dire qu'ils ont quand même enchaîné 24 matchs en Coupe d'Afrique, sans pour autant avoir été battu, et qu'il a fallu attendre, par exemple, 5 matchs de Cannes pour voir un seul but inscrit par Bansé. Donc, à une certaine période, ils étaient peut-être à bout contre le Cameroun, mais il faut savoir que c'est parce que le Cameroun, physiquement, était beaucoup trop préparé. Et si on parle d'expérience, comme notre Bible disait tout de suite, ils sont quand même plus expérimentés que le Cameroun. Quand vous voyez déjà Gabri, attends, c'est 30 ans, et quand vous voyez Fatih était déjà dans la CAN de 2008 contre le Cameroun quand ils ont gagné. Quand vous regardez El Adari, il était déjà là. Et quand vous regardez, c'est comme ça.
Mais donc, il était des Camerounais plus expérimentés qu'on ne le pense aussi.
Il n'y avait vraiment pas une dernière donnée sur cette équipe,
Christophe, je crois que vous ne contredirez pas. Hector Cooper, depuis 96, en fait, il ne gagne aucune coupe. Hier encore, il a dit qu'il était triste pour ses joueurs, mais pas trop pour lui.
Ouais, il a encore joué à Cooper gagne, enfin Cooper perd plus exactement. Il avait sauté dans la piscine le soir avec le staff de son équipe des Pharaons après la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, après la victoire sur le Ghana 2-0. On verra s'il a pas sauté trop tôt. Mais en tout cas, c'est vrai que la malédiction se poursuit un peu pour Hector Cooper qui finalement n'aura réussi à gagner que sur son propre continent, puisque en Europe, les grandes finales qu'il a jouées, ça n'est pas passé. Et la première grande finale qu'il a joué ici en Afrique, ça ne passe pas non plus. Vous me direz, il a quand même eu le mérite d'emmener ce groupe jusqu'en finale.
Qu'il soit patient. Ranieri n'avait rien gagné. Il a gagné le championnat avec Leicester, c'est pareil. Donc,
mais celui-là, il exagère quand même. 98, il perd. 99,
il a perdu. Il perd 3 Coupes d'Europe, une Coupe 99. Du Roi et une Coupe en Grèce.
Ah oui, 98, donc, c'était la Coupe du Roi. 99, la Coupe des Coupes. Et puis deux Ligues des Champions, presque. Voilà.
Ce qui fait pas
même en Italie, il faut quand même se dire, il perd pratiquement le Scudetto à la dernière journée.
Ce qui fait pas de lui un mauvais entraîneur.
Mais c'est un poisseux. Il faut partir. Non, non, mais ça vaut pas la peine.
Voilà, vous êtes dur.
Attends. Si tu perds.
Le mec,
il a travaillé
pour aller en finale. Donc, ça fait pas de lui un mauvais entraîneur.
Habib. Ah, mais bon.
Non, je pense qu'il faut que l'Égypte continue avec Thor Cooper. C'est quelqu'un qui a fait du bon travail.
Il les connaît bien.
Et ils seront récompensés, quoi qu'il arrive, un jour de leur travail. Parce que cette équipe s'est projetée en finale de Coupe d'Afrique alors qu'on n'en parlait plus depuis maintenant quelques années. Ça faisait 7 ans que l'Égypte n'était plus présente sur la scène continentale. Ou en tout cas, avec beaucoup de difficultés, avec le championnat local qui a de la difficulté. Je pense que là, tout va plus ou moins rentrer dans l'ordre. Il faut que l'Égypte revienne à son meilleur niveau. Et c'est le cas sur cette CAN.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été en direct avec nous. On vous retrouve bientôt à Paris.
Ouais, bah avec Denis Chastel, là, on va tout replier.
Et Médard Chablaoui, évidemment, toute l'équipe technique.
Félicitations, hein. Avec Nicolas Benita qui est derrière nous aussi. Vous avez été très bon, Christophe.
C'est gentil, Habib. Merci.
Merci à vous, bravo, Christophe. Lyon. Et à tout le monde d'avoir assuré, tout ce déploiement technique du côté de Libreville, notamment pendant toutes ces diffusions en direct des matchs. Merci beaucoup, Christophe, Olivier, Antoine, Eric, tous ceux qui rentraient bientôt, ainsi que donc Denis, Médard et Nicolas. À bientôt.
À bientôt.
Merci. On va continuer. Vous vouliez en parler tout à l'heure, Nabil, des étalons.
Oui.
Alors, les étalons, ils ont terminé sur la troisième marche du podium samedi, au terme de la petite finale disputée à Port-Gentil, sur cette pelouse qu'on aime bien. Le Burkina Faso a battu le Ghana d'un but inscrit à la fin du temps réglementaire.
Attention, le but magnifique, direct. Bertrand Traoré, le missile du pied gauche sur ce coup franc. Lucarne opposée, c'est dedans. Et les Burkinabés qui exultent, ça y est, ils ont trouvé l'ouverture sur cette géniale inspiration de leur pépite. Bertrand Traoré, 1-0 pour le Burkina Faso face au Ghana. C'est Alino Traoré, je les confonds décidément. C'est Alain Traoré, mais magnifique frappe du pied gauche.
Alain a marqué et vous allez l'entendre, Bertrand, il a parlé.
C'est un plaisir, c'est une fierté pour nous. On termine bien cette compétition, on est très content. On était fatigué, ça s'est ressenti, mais je pense qu'avec la volonté, je pense qu'on a pu le faire, on a poussé, on a essayé d'oublier la fatigue. Avec la volonté, je pense qu'on peut tout faire.
Qu'est-ce qu'elle prouve, cette médaille ?
C'est une fierté pour nous, pour tout le Burkina et toutes nos familles. Je pense qu'on a fait ça pour tous les Burkinabés qui ont cru en nous. Même on a perdu en demi-finale, ils ont su nous remonter le moral, ils sont restés positifs. Je pense que c'est quelque chose à saluer. On remercie tous les supporters burkinabés, tout le peuple burkinabé, que ce soit de près ou de loin. On est vraiment contents, cette victoire est pour eux.
Mais alors, de loin, ils étaient contents, mais de près aussi, puisqu'ils ont été reçus par des milliers de gens hier à Ouagadougou. Les frères Traoré, donc, élément essentiel, mais pas unique, hein, de cette équipe burkinabé. C'est la rage de vaincre, finalement, qui a... Parce qu'ils n'ont perdu aucun match, les étalons, sauf cette élimination les attend attristés. Mais ils partent sur une victoire, Habib.
Oui, ils partent sur une victoire. Je suis un petit peu de la bine Nabil. C'est l'une des équipes qui a, pour moi... procurer le plus de beaux jeux, en tout cas, et d'émotions. Après, ça m'a réconcilié avec cette petite finale. Je suis pas trop d'accord avec ces histoires de petite finale.
Ouais.
Mais encore une fois, le but d'Alain Traoré m'a réconcilié parce qu'il est tellement beau qu'on a envie, on se dit au moins on a regardé une petite finale pour quelque chose et ça nous a un petit peu réconcilié.
Surtout,
avec ça
épargne en plus parce qu'il y aurait pas eu de prolongation. C'était directement une séance de tir au but et là ça aurait été de nouveau
peut-être cruel. Je trouve que dans un tournoi, normalement, il faut laisser la place à la finale et le reste, ouais, malheureusement, ça doit être. Mais en tout cas, comme c'est comme ça et comme on est des amoureux du foot, on a été satisfait de voir cette équipe du Burkina au moins parachever un super parcours en ramenant une médaille, même si c'est une médaille de troisième place, rentrer au pays en héros, parce qu'il faut savoir qu'on les attendait pas, comme le Cameroun, comme beaucoup d'équipes, ils n'étaient pas attendus sur cette CAN. On avait l'impression que le football burkinabé était en déclinaison et on a vu que Paolo Duarte a réussi à faire un super travail avec cette équipe en termes de qualité de jeu. Apparemment, ils étaient super gentils, dans la convivialité.
Toujours gentil, le Burkina.
Voilà. Donc
tout ça travailler avec eux, c'était un bonheur.
Ça fait que pour le football, pour le continent africain, c'était exceptionnel de voir cette équipe du Burkina à un tel niveau.
C'est une équipe qui joue bien avant tout. Moi, je prenais du plaisir à la regarder. Je l'ai vu face à la Tunisie souveraine en deuxième mi-temps, largement pris l'avantage face à une équipe tunisienne quand même qui a des vrais talents, hein, des joueurs qui jouent dans des très bons clubs européens et qui s'est sorti d'un groupe extrêmement difficile. Et puis ensuite, il y a ce crève-cœur, ce match face à l'Égypte, où pour moi elle méritait de gagner sur sa deuxième partie de match. Elle est cohérente, elle est solide, elle est bien organisée, elle a du talent. On parle d'Alain Traoré, oui, il y a aussi Bertrand Traoré, Nakulma qui vient de signer à Nantes, qui est un joueur qui percute, qui est extrêmement intéressant. Elle a des personnalités, elle a du caractère à l'image de Charles Caboret ou d'Aristide Bansé, qu'on connaît, qui est un vrai baroudeur du football africain. Et puis j'ai envie de rendre hommage aussi, c'est un peu la fête des défenseurs lyonnais un peu méprisés ou pas toujours respectés.
Qui connaît, mais
Nkoulou hier, pendant que il a fait une belle entrée pendant que son équipe avait quelques difficultés en France. Et puis Koné, qui est parti après un parcours on va dire pas forcément rayonnant à Lyon, qui a été un vrai capitaine de route. Quant à ce gardien, c'est vrai que malheureusement on va retenir cette image de cette séance de tir au pénalty pas forcément très bien gérée face à l'Égypte, mais à l'image d'Ondoa, il y a une vraie relève des gardiens africains. On parle toujours de ce poste qui est un poste clé où il y a un déficit pour des questions de formation. Il joue à la SEC Mimosa. J'espère bientôt le voir en Europe parce qu'il a vraiment des grosses qualités.
Rémi, si on a vu finalement des étalons parachever leur travail par cette victoire, par contre on a vu des Ghanéens, on a eu un peu la sensation, alors certes Avram Grant avait fait tourner l'effectif pour permettre aussi à tout le monde de jouer, mais on n'a pas senti une rage de vaincre sur le terrain. Je crois que eux, en dehors de la finale, ils avaient peut-être pas trop... ils voulaient pas se consoler, disons, avec peut-être la petite finale.
Même si on peut dire ils ne voulaient pas se consoler, ils ont quand même voulu se consoler après, parce que ils commencent le match avec 7 titulaires qui sont au banc, mais vers la fin ils font quand même entrer André Ayou. Ils font quand même entrer Jan, et c'est à ce moment que justement le Burkina appuie sur l'accélérateur. Et justement, quand vous essayez de regarder l'équipe du Burkina, moi je dis, en dehors du Sénégal qui m'a fait une forte impression, c'est le Burkina. Parce que, franchement, comme Nabil parlait tout de suite, quand on regarde un match de cette CAN, on se pose la question, comment est-ce que l'Égypte a réussi à s'en sortir contre le Burkina? Vous vous rendez compte, avec, ce n'est pas seulement la possession qui était de 62%, mais 24 tirs pour le Burkina, dont 13 cadrés avec 11 corners, alors que l'Égypte n'avait retenu que 3.
Le Burkina est la première équipe à avoir vaincu la défense égyptienne sur la compétition.
Parce que il marque l'Égypte est restée invincible pendant 433 minutes. 433 minutes. Donc c'est Bansé qui va violer la défense. Donc aujourd'hui, moi je me dis, lorsqu'on essaie de regarder le Ghana est une équipe, d'ailleurs j'avais commencé à dire ça ici, lorsqu'on parlait des favoris, que je ne voyais pas le Ghana aller plus loin, parce que le problème du Ghana, d'abord, il est défensif, et au milieu du terrain, vous ne pouvez pas seulement évoluer avec Guacasso, qui d'ailleurs, s'il termine même un certain nombre de matchs, c'est parce que les arbitres sont très très gentils, des tacles à l'emporte-pièce avec deux pieds soulevés, ça ne peut pas aller comme ça là. Donc, et finalement, de l'autre côté, vous voyez Atsu qui essaie de faire son solo, et vous avez un piqué qui ne défend jamais, c'est-à-dire que Jordan Ayou, il est là, il attend pour qu'il aille. Attendez, il marque combien de buts? Il attend.
Vous êtes en train de les rhabiller pour l'hiver, là, les Ghanéens, là.
Ah non, mais c'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du penalty raté par Kofi. Hier, il est sauve à la fin du match. C'est genre une frappe d'Amarté, c'est lui qui sort ce ballon. Il est quand même présent pour son équipe.
Oui,
donc
il
c'est
avait
un beau destin.
Complètement,
je crois que surtout pour le Ghana, le seul objectif c'était de remporter la CAN. Donc pour eux, la troisième place n'était même pas une consolation. Donc on n'a pas eu l'impression de voir un Ghana investi pour aller chercher cette médaille, on va dire entre guillemets, médaille du perdant pour le Ghana. Ça serait la médaille du perdant pour le Ghana d'aller chercher cette troisième place, ce qui n'était pas le cas pour le Burkina. C'était un réel objectif pour le Burkina de parachever ce parcours, on l'a dit, par un trophée, même si c'est le trophée de la troisième place.
Est-ce que on a eu finalement peut-être dans cette CAN une victoire des collectifs, mais sur les individualités, parce que finalement toutes les stars entre guillemets en dehors de Mohamed Salah étaient reparties avec leurs équipes.
Annie, j'ai envie de vous dire, depuis le Cameroun 2000 et 2002, c'est quasiment à chaque fois le cas. La Zambie en 2012, le Nigeria en 2013, la Côte d'Ivoire sans Drogba en 2015. L'Égypte à trois reprises, c'est avant. Alors c'est vrai qu'attention, c'est pas qu'un collectif, parce qu'il y a quand même des vrais joueurs de ballon. Quand t'as des Mohamed Abou Traika, ou même en Zambie, il faut pas réduire après individuellement les joueurs. Quand vous avez des joueurs comme
Kalaba, mais c'est vrai que c'était plus le collectif.
Mais c'est vrai que les équipes à proprement dites, avec des stars mondiales entre guillemets, on les attend à chaque fois. à chaque fois son palais.
Mais c'est quoi, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on voit, et t'as raison d'appuyer là-dessus. Je trouve que c'est rare. Citez-moi une CAN où une star mondiale a existé ou a été complètement au-dessus du lot. Le football africain, sur le continent africain, les Coupes d'Afrique sont des compétitions très, très, très difficiles. J'ai eu la chance de jouer une Ligue des Champions, j'ai eu la chance de jouer des Coupes d'Europe, j'ai eu la chance de jouer une Coupe du Monde. Je peux vous garantir que la Coupe d'Afrique des Nations, en termes d'intensité, en termes de difficulté, c'est beaucoup plus dur qu'une Coupe du Monde, qu'une Ligue des Champions. C'est vraiment très difficile. Et j'ai l'impression que c'est toujours les collectifs qui font la différence. Il est difficile d'exister avec un seul joueur. On l'a vu avec le Gabon et Aubameyang. Samuel Eto'o à l'époque de 2002, Samuel Eto'o ne rayonne pas sur la CAN. C'est un collectif qui permet au Cameroun de gagner.
Justement, pour dire que quand vous avez vu le problème Samuel Eto'o, pourquoi est-ce qu'on était souvent dernier et ne même pas se qualifier en 2012-2013 et sortir dernier de la poule en 2015? C'est parce qu'on comptait sur une individualité. Regardez le Sénégal avec le meilleur buteur, Jules Bokandé. Jules Bokandé en 86. Qu'est-ce qui se passe? Il est le meilleur buteur, mais le Sénégal déçoit. Même en 65, même en 68, ça a toujours été comme ça. Donc aujourd'hui, même Abedi Pelé n'a pas réussi. Donc il faut absolument, comme le dit un proverbe africain, un seul bras ne monte pas à l'arbre et qu'un seul morceau de bois ne fait pas un fardeau.
Bravo Rémi.
Rémi, vous voulez pas rechanter votre petite chanson là?
On va sortir le chéquier pour payer un coup, Rémi.
Voilà, c'est ça. Il manque plus que le Real gagne la Ligue des Champions. Il manque plus que le Real gagne la Ligue des Champions et soit champion d'Espagne. Alors là,
l'Égypte est dans la sauce.
Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce Radio Foot International. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission avec Mathieu Béja et à Pierre Chaffangeon qui était à la réalisation.
RFI parle au monde en français.